Évaluer, classer, penser. Mercredi, comme chaque mois de mars depuis 23 ans, l'éducation nationale a rendu publique son évaluation globale des lycées de France. Évaluation aussitôt transformée en palmarès par de nombreux journaux et magazines. IVAL et surtout les indicateurs choisis, comme par exemple la capacité des établissements à faire progresser les élèves, méritent qu'on s'y arrête. Il mérite aussi d'être questionné au-delà d'une nécessaire transparence. Est-il important de délivrer cette information au public pour lequel le choix de l'établissement reste contraint? Et puis, ces évaluations font-elles avancer l'école? C'est la grande question. On la posera à nos invités. Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Rue des Écoles, c'est aussi le regard de Marie-Caroline Missire, directrice de la rédaction de L'Étudiant, sur l'actualité de l'école. Bonjour.
Bonjour Louise. On revient sur les manifestations de jeudi, la sécession des proviseurs et le numérique à l'école.
Et Libby Cousteau, grand reporter à l'Express, en mode innovation pour votre focus de fin d'émission.
Absolument Louise, innovation bienveillante ou comment innover dans l'évaluation des élèves?
Rue des Écoles, attachée de production Laurence Genepin, Alexandra Malka à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Que vous écoutiez cette émission ce dimanche 3 avril ou en différé, la meilleure chose à faire est de vous abonner à notre podcast via franceculture.fr par exemple, et pour commenter, échanger avec nous aussi sur cette émission, la page France Culture est ouverte, ainsi que le compte Facebook, et sur Twitter notre hashtag c'est RDE.
7h24, l'essentiel, Jean-Christophe Martin.
Des résultats toujours très attendus par les parents d'élèves. Les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, un palmarès des établissements les plus performants. Les chiffres sont publiés aujourd'hui. Un exemple dans
Quels sont les meilleurs lycées du pays? Sur quels critères peut-on établir un classement? Et puis, à quoi sert un tel tableau d'honneur? Le ministère
France Inter. Quels sont les bons lycées? On ne vous parle pas ici des élites à la Louis le Grand ou Henri IV, car ce n'est pas le taux de réussite au bac qu'on regarde. Enfin, pas que.
France Info. France Culture, France Inter, l'évaluation des lycées produite par la DEP, donc Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance au ministère de l'Éducation nationale, a été très bien relayée sur le service public de la radio, ici à Radio France, également dans les journaux. Fabienne Rosenwald, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la DEP. Donc, IVAL, vous pensez que le message est bien passé en ce qui concerne ce classement? Les médias ont compris la complexité de votre travail?
J'ai en effet parcouru avec un grand intérêt et surtout une grande impatience la presse. Et j'étais assez admirative de la façon dont les journalistes ont réussi à rendre compte de ces fameux IVAL, les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, qui ne sont pas faciles. Et je trouve qu'ils ont très bien fait passer le message en termes de problématiques, à quelles problématiques répondaient les IVAL. C'est-à-dire, on essayait de cerner comment les lycées accompagnaient leurs élèves jusqu'à l'obtention du baccalauréat. J'ai trouvé aussi qu'ils rendaient très bien compte de l'approche avec un faisceau d'indicateurs, pas un seul indicateur, un faisceau d'indicateurs, et de l'approche en termes d'apport de l'action du lycée, en termes de valeur ajoutée, en tenant compte du profil des élèves.
Ça a été un vrai travail de pédagogie avec les médias?
Oui, ça fait très longtemps, puisque ça fait 23 ans qu'on publie ces IVAL. Mais je trouve que cette année, c'était particulièrement intéressant de lire les reportages, la façon dont les journalistes les étaient appropriés. Les reportages dans les établissements étaient particulièrement intéressants en termes de retour sur les bonnes pratiques en particulier, puisqu'ils avaient sélectionné des établissements qui faisaient mieux que ce à quoi on s'attendait.
Mieux pour faire progresser leurs élèves. Alors nous, on a sélectionné un établissement, on ne fait pas de palmarès à Rue des Écoles, mais certains établissements, alors par exemple dans les banlieues, on s'est intéressé dans beaucoup de médias à ce fameux département de Seine-Saint-Denis. On sait qu'il y a certains problèmes concernant la scolarité et pas à cause du niveau des élèves forcément, aussi des problèmes de remplacement, des problèmes qui mettent parfois en péril la réussite des élèves. Donc, à genre Renoir a bondi. Ça se passe plutôt bien pour vous. Bonjour Saïd Yacoub.
Bonjour.
Vous êtes le proviseur de cet établissement. Satisfait de voir mis en avant votre lycée?
Alors bon, satisfait, c'est toujours... ça fait plaisir si vous voulez, mais honnêtement, ce n'est pas la préoccupation du moment que d'être satisfait. C'est-à-dire qu'on travaille. Ces derniers temps, on a été très sollicité par les services communication du rectorat pour répondre à des interviews. Oui, ça fait plaisir. C'est un retour. Enfin, en tout cas, c'est du collectif. Hein. Je veux dire, c'est un travail. C'est pas que le proviseur dans son bureau. C'est toute une équipe, des parents d'élèves investis, des élèves aussi mobilisés en termes d'ambition scolaire. Hein. Et le bac aujourd'hui, c'est pas non plus une fin en soi. On sait très bien qu'on travaille sans relâche à faire en sorte que nos élèves soient admis dans l'enseignement supérieur et plutôt sur des vœux 1, 2, 3 que puisqu'on globalement, quand on regarde, aujourd'hui, 8 à 9 élèves sur 10 décrochent le baccalauréat. Maintenant, il faut regarder
attentivement. Donc les enjeux vont au-delà. Mais on va s'intéresser à vos bonnes pratiques. Dans un instant, Nathalie Mons, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise et présidente du CNESCO. Le CNESCO qui évalue le système éducatif. Une petite question, est-ce que évaluer les établissements, c'est intéressant pour évaluer un système éducatif dans son ensemble ?
Oui, évaluer les établissements, c'est intéressant. Et je dirais que lorsqu'on regarde le travail qui est fait en France aujourd'hui, c'est un tout petit premier pas. Hein, puisqu'on se contente aujourd'hui d'évaluer les établissements avec des indicateurs. Alors je rejoins tout à fait la directrice de l'ADEP qui dit que voilà, on est vraiment passé d'une période où on s'intéressait seulement à ce qu'on appelle les taux bruts, c'est-à-dire la réussite des élèves, et maintenant on a finalement une variété d'indicateurs beaucoup plus riches. Ceci dit, quand on regarde l'évaluation des établissements à l'étranger, évidemment c'est autre chose, parce que évaluer un établissement, ça ne se limite pas, et vous l'avez très bien dit, vous qui êtes un acteur de terrain,
Saïd Yacoub,
ça ne se limite pas évidemment à quelques résultats au bac. Par exemple, l'Angleterre, qui est vraiment très en avant sur l'évaluation des établissements, réalise des évaluations qu'on pourrait dire qualitatives, c'est-à-dire qu'il y a des équipes d'inspection qui se déplacent dans les établissements et qui, au-delà des résultats bruts des élèves, s'intéressent vraiment à la façon dont les enseignants font les cours, la façon dont travaille l'équipe de direction, le climat scolaire. Enfin voilà, c'est ça en fait, une vraie évaluation des établissements. Et la France est vraiment aujourd'hui très isolée, puisque c'est un des rares pays européens qui n'a pas développé d'évaluation réelle des établissements.
On évalue l'évaluation de l'école aussi un petit peu aujourd'hui dans Rue des Écoles. On va continuer à le faire juste après nos actualités. Avec Marie-Caroline Missire, vous nous le disiez la semaine dernière, Marie-Caroline, le printemps sera chaud, il l'est.
Et en effet, cela ne se dément pas. Nouvelle manifestation ce jeudi à l'appel notamment des organisations lycéennes et étudiantes sur la loi travail. Résultat, la mobilisation monte encore d'un cran avec 390 000 manifestants selon l'Intérieur, 1,2 million selon les organisateurs, contre 224 000 le 9 mars. Des violences ont émaillé certains rassemblements, comme dans le cortège lycéen de la matinée à Paris, où une trentaine de jeunes munis de barres de bois se sont attaqués à des agences bancaires, des magasins, des abribus, etc. Les affrontements avec les forces de l'ordre se sont soldés par une vingtaine d'interpellations. Même scénario dans plusieurs grandes villes de France, à Toulouse, Rennes, Nantes ou Marseille.
Et nous avons un invité dans cette page d'actualité, Naïm Chili, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'Union nationale lycéenne. Je vous invite à rester avec nous d'ailleurs tout le long de l'émission. Un petit commentaire sur ces débordements aussi les cortèges.
Ils sont dommageables mais non représentatifs du mouvement. On l'a dit, sur 1,2 million de manifestants hier, c'est une infime minorité en dehors des organisations syndicales qui ont causé ces événements. Donc forcément, on les condamne. On condamne toutes les violences, quelles qu'elles soient. La semaine dernière, on condamnait autant les violences de la police et on condamne autant celles des casseurs hier.
Bon, restez bien à l'écoute de ce qui va suivre. Marie-Caroline, le seuil d'alerte semble dépassé pour le ministère.
Un mouvement à prendre très au sérieux dans un contexte politique difficile pour le gouvernement qui, à la veille de la manifestation de jeudi, a quand même entériné l'abandon de la réforme constitutionnelle. Une brèche dans laquelle se sont engouffrés certains syndicats étudiants comme l'UNEF qui table désormais sur un recul sur la loi travail. Mais comme dans tout mouvement lycéen et étudiant, vous ne me contredirez pas, plus ou moins durable, on observe une forme de radicalisation de la contestation à la manœuvre parfois certains groupuscules d'extrême gauche qui cherchent à déborder les organisations lycéennes traditionnelles et puis les inévitables bandes de casseurs. Mais vous l'avez dit, c'est assez marginal.
Un autre phénomène est à prendre très au sérieux.
c'est l'attitude assez inédite de certains chefs d'établissement qui ont fermé jeudi leurs établissements, 31 au total à Paris, contre l'avis du rectorat et du ministère qui plaident, eux, la continuité du service public.
Une pratique en marge de la légalité, mais que défendent les chefs d'établissement. On écoute un témoignage.
Ce qu'on observe depuis la rentrée des vacances d'hiver, ce sont des agitations, des individus qu'on n'arrive pas à identifier, donc qui ne sont pas forcément élèves du lycée, qui ont des comportements plus ou moins violents, qui utilisent des projectiles, qui essayent de mettre le feu. Parfois, c'est arrivé dans certains lycées. C'est dangereux. Donc, nos élèves ne peuvent pas rentrer dans l'établissement. Les élèves les plus jeunes, certains sont démunis, d'autres s'excitent. On a vu que s'organisait une véritable guérilla urbaine dans certains endroits et on se retrouve seul. C'est ça qu'il faut comprendre, si vous voulez. Après, le rectorat nous appelle pour savoir si tout va bien. Mais lorsqu'on a affaire à des individus cagoulés, armés, là, non, là, c'est plus possible de rester seul face à ce type de phénomène.
Daniel Grua, proviseur du lycée d'Orient, dans le 11e arrondissement à Paris, et c'était dans le journal de 8h de France Culture, ce 31 mars.
C'est un message clair de rébellion qu'on entend, et d'une certaine façon d'autonomie aussi, de la part des chefs d'établissement. Message envoyé au ministère par ces proviseurs qui choisissent en quelque sorte de faire sécurité eux-mêmes en se passant de l'État. Bon, phénomène marginal ou non, il s'agit clairement d'un acte de désobéissance de l'administration de l'éducation nationale qui ébranle et interroge profondément l'autorité du ministère, il faut le dire. Dans ce contexte plus qu'agité, la communication ministérielle entre journées sur l'innovation, remise de prix et déplacements en tout genre apparaît à contre-temps et prend même le risque de paraître déconnecté. J'ajoute que plus fondamentalement, cet épisode est vraiment un révélateur d'une forme de décomposition progressive de l'éducation nationale. C'est Philippe Tournier qui me l'a dit ce matin, secrétaire général du SNPDEN, qui l'explique
c'est
très bien.
C'est le syndicat des
absolument,
personnels de direction.
Le principal syndicat des personnels de direction. Il me dit, on est arrivé à une forme de bout de cycle, comme si le local n'avait plus vraiment besoin du national. On a l'impression que la machine éducation nationale ne répond plus. En d'autres termes, le vieux système pyramidal de l'éducation nationale tente de résister, mais des logiques horizontales, celles des établissements, des personnels, du terrain, s'installe et oblige le système à se recomposer.
Saïd Yacoub, vous qui êtes proviseur, abondit un commentaire.
Alors oui, juste une petite remarque sur des expressions utilisées comme en marge de la légalité ou faire autonomie. Je rappelle qu'il est de la prérogative d'un chef d'établissement qui est représentant de l'État dans son établissement d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de fermer un établissement si cela est nécessaire. Donc on n'est pas en marge de la légalité, c'est un exercice de la responsabilité.
Comment vous justifiez du coup que vous enfreigniez pour la première fois, c'est assez inédit, des consignes assez claires du ministère et du rectorat?
Alors, enfreindre, enfin, je pense qu'on est quand même des fonctionnaires de responsabilité, hein, ou bien sûr en adéquation avec les directives nationales et rectorales. Mais je rappelle, enfin je l'ai dit, hein, excusez-moi d'insister, sur le fait qu'un chef d'établissement est tout à fait en droit de fermer son établissement.
Vous pensez que ça dit quelque chose de ce qui se passe en ce moment?
De la sécurité, oui, enfin la sécurisation des établissements scolaires. Vous disiez, sans vouloir entrer dans une polémique, hein, fermer l'établissement, on est en marge de la légalité. Bloquer un établissement scolaire, je rappelle que c'est un délit aussi. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des grèves, de manifester, mais d'interdire l'entrée dans l'établissement scolaire, ça se regarde aussi à la loupe, ça. Je discutais tout à l'heure avec un collègue du lycée Arago de Paris. Il y a donc un collègue là qui a le dent cassé en ayant débarrassé des poubelles ce matin. Au lycée Voilôme d'Aulnay-sous-Bois aussi ce matin, c'est très particulier comme ambiance.
Et nous apprenions ce vendredi matin qu'un proviseur avait été agressé à Paris, il s'agit du proviseur du lycée Paul Bert, agressé par une bande d'individus cagoulés. Passons à Ifran et au numérique, Marie-Caroline.
Oui, très rapidement, la mission Ifran qui cherche à promouvoir la recherche dans le numérique à l'école a retenu cette semaine 9 projets numériques intéressants sur les 66 qui étaient présentés. Parmi les lauréats, le CRI, Canopée Bordeaux, encore le Synlab de Créteil, tous dotés de budgets de 300 000 euros à plus de 1,3 million d'euros. Donc c'est un effort important.
Enfin, l'éducation nationale a du pain sur la planche. Un petit mot sur l'affaire Villefontaine et une circulaire parue cette semaine.
Une circulaire adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale qui précise les modalités de contrôle des casiers judiciaires des enseignants. 850 000 personnels de l'éducation nationale tout de même et qui s'assure par la même occasion qu'aucun n'a d'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Je cite un passage de ce texte. Il est rappelé qu'en cas de condamnation définitive, la matérialité des faits étant établie par le juge pénal, elle ne peut en aucun cas être remise en cause lors de la procédure disciplinaire.
Ce qu'on comprend en creux, c'est que ça a été le cas avant. Alors Naïm Chili, merci d'être avec nous. On a quelques questions à vous poser concernant la mobilisation des lycéens. Mardi, nouvelle mobilisation. Les lycées vont être encore bloqués, même si on entend que c'est très problématique. Vous allez retourner dans la rue, vous mobilisez vos troupes avant les vacances scolaires ?
Déjà, certaines zones qui sont en vacances scolaires, mais effectivement, on appelle à mobilisation jusqu'au retrait total de leur travail. Donc, le 5 avril et le 9 avril aussi, puisque certains lycéens, notamment les apprentis, travaillent, ne peuvent pas manifester. Donc, voilà, il y aura aussi une manifestation le 9 avril. Et donc, nous, on appelle à mobilisation, quelle qu'elle soit. Après, c'est aux lycéens de s'organiser, établissement ou pas établissement. C'est pour ça, notamment, que nous, on invite à organiser des assemblées générales au sein des établissements pour discuter de la loi travail, tout d'abord. Quel est son contenu, quels sont les points qui font qu'on y est opposé et comment se mobiliser contre cette loi-là. C'est aux lycéens de décider de leur moyen de mobilisation et on les y invite.
Est-ce que, au-delà de toute cette mobilisation sur une loi qui concerne le travail, et on vous dit souvent que le travail c'est assez éloigné des préoccupations habituelles des lycéens, c'est pour dans longtemps, entre guillemets, pour vous. Vous avez un point de vue sur l'école aujourd'hui, la formation que vous recevez au lycée, les diplômes que vous pouvez décrocher. Quelles sont les revendications de l'UNL, votre syndicat, en la matière ?
Certains lycéens sont déjà touchés par cette loi travail. Les apprentis qui, de fait, sont déjà sur le marché de l'emploi, mais aussi un lycéen sur 8 au niveau national, c'est 30% des lycéens franciliens qui travaillent déjà à côté de leurs études. Donc, on est déjà touché par le marché de l'emploi et donc par la loi travail s'il venait à être adopté. Et ensuite, évidemment, qu'on porte des revendications. On le sait, le diplôme, c'est le meilleur rempart face au chômage. Sauf qu'un diplôme de qualité, il peut être obtenu qu'avec des moyens qui sont investis dans l'éducation. Donc, c'est donner les moyens afin de permettre d'accéder à la réussite pour tous, que ce soit au lycée ou mais sinon enseignement supérieur. Et ça passe aussi par d'autres biais, un changement des méthodes pédagogiques pour lutter contre le décrochage scolaire. On parlera de l'évaluation des établissements, mais voilà, évaluer aussi quelles sont les bonnes pratiques qui permettent à lutter contre le décrochage scolaire, qui permettent à accéder à la réussite de tous et avoir un bon taux de réussite au bac, mais pas en éliminant les mauvais élèves quelques jours avant l'examen. C'est toutes ces solutions que nous on apporte et qu'on porte depuis des années d'ailleurs.
Et concernant votre avenir, toujours, ce que notent les sociologues, par exemple Olivier Galland, qui s'intéresse depuis de longues années à la jeunesse, c'est que finalement les bacheliers et puis ceux qui accèdent à l'enseignement supérieur sont épargnés aujourd'hui par les crises du travail, font partie de ceux qui vont sûrement décrocher un CDI pour la plus grande part, que finalement ces modifications de la loi travail et l'insécurité autour du travail et de la précarité, elle touche plutôt les non-diplômés. Est-ce que vous arrivez à atteindre aussi ces jeunes qui, pour une grande part, sont déjà sortis du lycée, voire du système éducatif, au même âge que vous ?
Effectivement, c'est difficile de toucher ces jeunes-là, puisque, comme vous l'avez dit, ils sont éloignés maintenant du système éducatif, puisqu'ils n'en font plus partie. Mais notre but à nous, c'est justement d'aller les chercher, de les convaincre et de les pousser à se mobiliser, puisque, effectivement, ce sont les premiers touchés par le chômage et la précarité à long terme. Certains sont déjà touchés dès maintenant aujourd'hui. On a parlé de la garantie jeune, d'élargir la garantie jeune au plus grand nombre pour permettre à ces jeunes-là de trouver un emploi. Si on sait qu'aujourd'hui, même malgré la garantie jeune, c'est pas forcément l'aide qui va en premier lieu les aider. Donc nous, on porte un certain nombre de propositions. Avant d'aider les décrocheurs, il faut déjà éviter qu'ils ne décrochent. Et c'est sur ce champ-là qu'il faut changer. C'est comment on change l'éducation pour éviter ce décrochage scolaire et éviter ensuite le chômage des jeunes à long terme.
L'éducation, le lycée, ça vous intéresse ? On continue à en parler.
France Culture.
Rue des Écoles.
Louise Touré.
L'école face au classement, lycée, collège, bientôt sont comparés et classés. Est-ce bon ? pour l'école? C'est la question que nous nous posons avec nos invités. Fabienne Rosenwald, non, ce n'est pas vous qui classez le collège, mais certains le font. Certains classements sont publiés. Tiens, Marie-Caroline Missière, il y a eu un classement récemment des collèges dans l'étudiant.
Il y a eu un classement des collèges. On publie à peu près 25 classements et palmarès par an. Et puis, on va monter en puissance cette année.
Pourquoi le public s'intéresse-t-il autant aux palmarès, aux classements, à cette évaluation évaluationnite du système éducatif? C'est la preuve, comme je le pressens, d'une certaine angoisse devant les questions scolaires.
Ce sont des formes éditoriales assez anciennes, hein, on l'a dit, ça fait 23 ans que le ministère donne accès aux médias à ces données. Là, il y a un engouement médiatique incroyable parce que tous les magazines ou presque la PQR, la presse quotidienne régionale, a publié son propre classement. Résultat, on a un paysage totalement éclaté avec des classements différents d'un média à l'autre.
Ah, mais tout le monde se réjouissait hein, sur
Absolument.
Les réseaux sociaux. Beaucoup de lycées arrivaient premiers.
Un engouement formidable. Incroyable. Et pour répondre à votre question, bien sûr, il y a l'anxiété, il y a le fait qu'on est face à un système de plus en plus complexe. Et puis, je crois aussi qu'il y a de nouveaux modes de consommation de l'information, on le voit, nous journalistes, dans nos métiers, qui sont poussés par le web. Et comme aujourd'hui, on a besoin de se renseigner avant d'acheter, avant de se soigner, avant de se loger, d'être dans une démarche comparative, et ben je crois que pour l'éducation, on a besoin de se renseigner pour se former et que cette façon d'approcher l'information disrupte aussi l'éducation, et c'est une montée en puissance avec le web, d'où la multiplication de ces classements sur les supports web des médias.
Fabienne Rosenwald, avec Ival, avez-vous l'impression de participer à l'information sur ce qu'on pourrait appeler le marché scolaire? La formule n'est pas de moi, hein, je reprends celle de sociologues. On parle aussi de marché scolaire en France. Les gens vont dans le privé, dans le public, retournent dans le privé. Il y a beaucoup d'allées et venues. Est-ce que vous avez l'impression de les aider à choisir et à s'orienter?
Ce qui est sûr, c'est que par rapport à des classements qui existaient avant sur des taux de réussite purs observés, ce qu'on produit est de meilleure qualité, au moins. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est-à-dire qu'un classement sur les taux de réussite constatés dans des lycées, c'est une vision tronquée, puisque par exemple, le taux de réussite à l'examen final, on ne voit pas ce qui est arrivé aux jeunes qui, eux, ont été éliminés entre la seconde et la présence à l'examen. Donc on a une vision tronquée, et c'est une vision biaisée, puisque pour un même taux de réussite, on peut avoir deux formes d'action différentes du lycée. Dans un premier cas, il peut avoir reçu des élèves de très bon niveau scolaire, qui avaient déjà développé des méthodes de travail. Donc finalement, il n'a pas eu un apport énorme en termes d'accès au baccalauréat. Il faut bien rappeler que les IVAL ne mesurent, et vous l'avez rappelé, que l'accès au baccalauréat. Ou alors, le lycée, au contraire, à taux de réussite équivalent, il a vraiment développé des méthodes de travail, des connaissances, des compétences chez les jeunes.
Donc, puisque ce marché existe, en quelque sorte, autant donner les bonnes informations.
C'est un peu comme ça. Même si, et c'est ce qu'on répète, il ne faut surtout pas choisir un lycée sur des indicateurs, même un faisceau d'indicateurs. Il faut aller voir les établissements, il faut aller voir les projets d'établissement, il faut aller voir comment ça fonctionne, il faut aller voir comment il se situe dans son environnement. Il faut surtout que le jeune y aille, puisque c'est lui qui va y passer au moins 3 années.
Bon, si il peut choisir et si dans ses choix, il accède à l'établissement qu'il a mis en tête de liste. Parce que ça, c'est très, très compliqué. Saïd Yacoub, sur finalement ce travail qui rend un peu hommage au vôtre de travail dans votre établissement, finalement, qu'est-ce qui fait qu'il se distingue, ce lycée Jean Renoir de Bondy, avec beaucoup d'autres? C'est quoi? C'est le temps que vous passez à accompagner les élèves? Quels sont les critères qui font la différence?
Alors, enfin, si je peux me permettre juste une petite remarque, j'étais assez perplexe hier soir en consultant les différents classements selon le quotidien ou l'hebdo. Et très honnêtement, pour nous, chez l'établissement, ça va être un outil d'aide à la décision au pilotage. Enfin, c'est-à-dire, on va se situer par rapport à des taux attendus. Mais de là à entrer dans les classements, je suis très inquiet. Lorsque l'on dit à telle famille que tel établissement est le plus attractif et le plus performant, tout en sachant que l'élève ne pourra pas y entrer parce qu'il y a quand même des réglementations de carte scolaire ou de sectorisation, c'est quand même inquiétant. C'est quand même très inquiétant. Qu'est-ce qu'on
vous
dit aux gens?
Vous avez peur de devoir décevoir des gens qui voudraient aller dans votre établissement
absolument
et qui ne pourront pas y
accéder? Absolument pas. Mais regardez, donc si je prends celui de le classement du Parisien, cet établissement est, je crois, 27e sur 2302. Toujours est-il que j'ai quand même des parents d'un certain collège, des pavillons sous bois, qui veulent absolument pas venir dans mon établissement, qui est en concurrence avec un grand lycée, je sais pas si on peut citer les lycées à l'antenne, Schweitzer ou Rinci ou Bouloche à Livry-Gargan, et chez moi c'est le Far West et leurs enfants vont se faire agresser. Donc comment casser aussi ces représentations-là, ces stéréotypes-là, alors qu'effectivement, je suis moi convaincu de l'engagement de l'ensemble des équipes et directions incluses. C'est pas le proviseur qui porte ces résultats-là, je veux dire, c'est un collectif. Hein. Et puis il y a d'autres aussi éléments comme le bien-être de l'élève, la qualité du vivre ensemble, les projets du CVL ou de la maison des lycéens, enfin toutes ces choses-là qui n'entrent pas forcément dans ces critères de performance.
Donc vous avez encore plus à défendre pour continuer sur cette notion de choix de l'établissement. Étant en charge d'une émission sur l'école, les gens ont tendance à me parler un peu de leurs problèmes divers et variés d'orientation en particulier. Et ce que me disait une collègue de France Culture, productrice, ce qui lui semblait fou par rapport à ses années lycée à elle, c'est que maintenant elle a l'impression d'une sélection opérée par les établissements publics. On parle de l'orientation en région parisienne quand on doit faire trois choix en fonction aussi de la réputation des établissements et en fonction de ses propres notes. Et puis ensuite, ça passe dans la grande machine informatique de l'orientation et puis on accède à un résultat. Est-ce qu'il n'y a pas une petite déshumanisation et une mathématisation de l'accès au lycée qui rend le rapport à l'orientation encore plus complexe qu'il y a 10, 20, 30 ans.
Alors c'est la règle de l'algorithme en fait. Hein, c'est finalement ce qui est au cœur d'AffaireNet pour les affectations des élèves. Mais très honnêtement, je pense qu'il y a quand même une dimension très humaine. Moi, pour être membre d'une commission d'assouplissement de la carte scolaire, et avec des bonifications attribuées à des élèves porteurs du handicap, boursiers, enfin, c'est vraiment regarder à la loupe. Maintenant, il faut être quand même clair, l'élève collégien accède à son lycée de secteur massivement. C'est quand même ça là, aussi la règle républicaine, et heureusement.
Paris, c'est très particulier. Nathalie Mons, quels sont les effets connus, hein, scientifiquement, de la réputation des établissements sur ce que j'appelle, entre guillemets, triple guillemets, le marché scolaire et le choix des parents?
Il est central et l'effet réputation, en fait, est beaucoup plus important que la lecture et le contenu des palmarès. Hein, c'est ce que montrent toutes les recherches en France et puis surtout à l'étranger. Alors c'est vrai qu'il y a un engouement médiatique et certainement un engouement aussi des lecteurs, puisque si les médias le portent, c'est qu'il y a quand même aussi des gens qui ont envie de le lire. Ceci dit, on sait que la performance, et notamment les performances brutes ou les indicateurs de valeur ajoutée, ont très peu d'impact sur le choix qui est réalisé par les parents. Pour la bonne et simple raison, et vous venez bien de le citer, c'est que ce qui intéresse les parents, ce sont par exemple les taux bruts, et ils ne vont pas évidemment aller chercher à mettre leur enfant dans un établissement qui aurait une très forte valeur ajoutée, mais qui aurait à leurs yeux une mauvaise réputation. Alors une mauvaise réputation, c'est quoi souvent? C'est que les enfants qui sont accueillis dans l'établissement ne ressemblent pas à mon enfant. Hein, c'est ça en fait. Hein. Je suis allée voir à la sortie et j'ai vu des enfants qui ne ressemblent pas exactement à mon enfant. Et en fait, c'est vraiment cet effet réputation qui est beaucoup plus important. Alors, et cet élément est beaucoup plus important, notamment, on sait que ça joue à plein aux États-Unis. On sait que les pays nordiques aussi, dans les pays nordiques, les parents intègrent également énormément le climat scolaire, le bien-être de leur enfant, beaucoup plus par exemple que les performances de l'établissement brut. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait les copains qui soient avec l'enfant et un établissement où l'enfant va se sentir bien. Voilà. Donc il y a différents critères selon les pays. La France est peut-être un des pays où les performances sont un petit peu plus importantes, mais on voit bien que ce n'est pas ça qui va déterminer les parents.
Mais il y a aussi un poids historique du baccalauréat. Baccalauréat dont la réussite est quand même l'objectif des années lycée. Seulement aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, le baccalauréat dans les séries générales, la réussite dépasse les 90%. Donc qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour les parents, pour les familles, pour le choix ?
C'est-à-dire qu'en fait, et on voit bien les limites du palmarès, c'est-à-dire que évidemment, ça n'a arrêté au baccalauréat, ça a un intérêt très limité, et lorsqu'on parle d'évaluation d'établissement, il faudrait aussi savoir quelles sont à l'avenir les trajectoires des élèves. Est-ce que l'établissement prépare bien à suivre une carrière positive, par exemple dans l'enseignement supérieur? Les parents seraient évidemment très intéressés par ce type d'indicateur.
Impala, The Less I Know, The Better. Vous écoutez France Culture, rue des écoles. Alors, ce n'est pas, peut-être pas mieux de ne pas en savoir beaucoup, comme le dit la chanson. Peut-être faut-il avoir beaucoup d'éléments sur son établissement, par exemple sur son lycée. On a eu cette semaine une évaluation IVAL de la valeur ajoutée des établissements. Là, je parle comme l'éducation nationale est sous votre contrôle, Fabienne Rosenwald, directrice de la DEP. Ces services statistiques ont mis au point donc une évaluation de plus en plus complète au fil des années. Mais comme le disait Nathalie Mons du CNESCO il y a un instant, on pourrait peut-être s'intéresser à encore plus d'indicateurs. Par exemple, la réussite des élèves après l'obtention du baccalauréat. Peut-être est-ce différent dans les établissements. Est-ce que vous pensez réaliser ce genre d'études à l'avenir ?
Alors, c'est une question très, très intéressante, bien sûr. C'est vrai que parmi les bacheliers, si certains ont une vocation à s'insérer dans la vie professionnelle, je pense aux bacheliers professionnels, puisqu'il n'y en a qu'un tiers qui continue en supérieur, les autres bacheliers continuent en très, très grande majorité en supérieur. Donc, ça serait très intéressant de voir, au-delà de ce que mesurent les IVAL, c'est-à-dire l'accès au bac, comment les lycées préparent plus ou moins bien leurs élèves à l'enseignement supérieur. Mais alors on se heurte à un sujet énorme, c'est que l'enseignement supérieur, il est vaste, il y a énormément d'établissements. À qui on donnerait en fait l'action d'avoir fait réussir l'élève? Au lycée il y a 2 ou 3 ans ou à l'établissement d'enseignement supérieur qui les a accueillis et amenés jusqu'au diplôme du supérieur? Là, ça devient très, très compliqué. Mais c'est sûr que c'est très intéressant.
Et sans essayer de rendre grâce à l'un ou à l'autre, on peut acter qu'il convient d'être bien préparé aux études supérieures. On parle aujourd'hui de cycle bac-3, bac+3, Saïd Yacoub. Est-ce que c'est aussi une idée que vous avez en tête, l'avenir, et pas seulement le bac, les mentions éventuelles qui font bien sûr un palmarès, mais qui, après tout, sont vite passées?
Alors, sur le spectre Bac plus 3, Bac moins 3, c'est une réalité, un outil de travail aujourd'hui dans un établissement scolaire. Alors, on parlait du lycée que je dirige, c'est une cité scolaire en fait, hein, qui va de la 6e au BTS, 1850 élèves, avec donc 20 classes de collège. Et c'est évident aujourd'hui d'inscrire le parcours, la trajectoire, l'ambition scolaire dans ce spectre-là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de lisibilité sur ce que deviennent nos élèves, bon, indépendamment de ceux que j'ai, mon BTS. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui doit nous interroger. Hein. Quand on parle de valeur ajoutée, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on dit au quotidien, quand je dis nous, c'est aussi mes collègues adjoints. Hein.
Bien entendu.
Hein, c'est quand on parle de valeur ajoutée, c'est quelle plus-value on est en capacité de générer pour que nos élèves s'adaptent, réussissent et poursuivent le plus longtemps possible. Quand on regarde quand même les taux d'échec, ou de réorientation, ou de décrochage dans l'enseignement supérieur, on est quand même extrêmement inquiet. Hein. Donc le bac aujourd'hui, ok, mais ensuite, pourquoi faire ?
Vous tournez vers Naïm Chili, il n'a pas décroché, hein. Militant à l'UNL et en classe préparatoire, je crois. Non. En tant que lycéen, vous êtes toujours un petit peu lycéen, est-ce que c'est un souci qu'on a en tête quand on aborde ces années lycée, le bac plus 3, qu'est-ce que ça va être, comment on s'y prépare?
De manière assez générale, quand on évoque l'avenir, que ce soit, on parlait tout à l'heure de l'au-travail, mais que ce soit notre année d'enseignement supérieur au-delà, c'est assez flou, on a des doutes sur qu'est-ce qui va être notre avenir. Déjà actuellement on voit nos frères, nos sœurs galèrent beaucoup, alors qu'est-ce que ça va être quant à nous? Mais pour revenir à ce qu'on disait quand même, c'est vrai qu'actuellement on est une évaluation qui est souvent prise par les parents, par les médias, comme une photo finalement, assez figée de la situation actuelle, sans jamais effectivement aborder de quelle est l'évolution de l'élève, quel est le suivi de l'élève, et au final quelle va être sa réussite à long terme ou pas, quelle est aussi l'évolution du climat scolaire au sein du lycée, est-ce que l'élève a réussi, mais est-ce qu'il s'est épanoui au sein de son établissement? Tout cela c'est pas pris en compte. Et là-dessus, c'est des choses sur lesquelles il faut progresser pour voir justement, effectivement, comment, au-delà de donner un diplôme à chaque élève, on garantit aussi qu'à l'avenir, l'enseignement supérieur soit moins flou, que grâce à ce que l'établissement peut faire, son orientation sera mieux assurée, qu'il aura une chance accrue, enfin, des capacités accrues pour réussir dans l'enseignement supérieur. Et ça, l'évaluation en tant que telle ne le montre pas et ne le permet pas.
Oui, le bel esprit de synthèse de Rue des Écoles qui réunit proviseurs et syndicats lycéens pour cette émission sur l'évaluation scolaire, l'évaluation des établissements. Marie-Caroline Missire, l'étudiant, le magazine dont vous dirigez la rédaction, produit beaucoup de classements. On l'a dit, c'est complexe hein, de produire un classement, que ce soit pour les collèges, comme vous l'avez fait pour les lycées ou les grandes écoles, parce qu'il faut prendre en compte une multitude de critères. Comment travaillez-vous à ces classements au sein de votre rédaction?
On se remet en question chaque année et les experts qui constituent cette rédaction s'interrogent sur, en permanence, en dialoguant avec les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, l'ADEP également, sur la pertinence des critères qui nous conduisent à réaliser des palmarès et des classements. Ce qu'on a mis en œuvre il y a quelques années, c'est des palmarès qu'on appelle dynamiques chez nous, qui permettent d'intégrer un grand nombre de critères. Si je prends un exemple pour les écoles de commerce, cela va du salaire de sortie à la place de la recherche académique, à la part accordée aux professeurs internationaux, des critères multiples, 5, 6, 7, 8 critères. Et en fait, l'utilisateur va pouvoir, en fonction des critères qu'il juge les plus pertinents pour son parcours à lui, pour son profil à lui, faire une recherche personnalisé. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Après, c'est assez exigeant parce que du coup, c'est effectivement moins lisible qu'un classement unique avec le premier, le deuxième, le troisième point final. Mais c'est plus honnête aussi et ça demande effectivement à s'interroger tous les ans sur est-ce que nos critères sont toujours pertinents. Et c'est vraiment un travail très technique, scientifique et qui est fait étroitement avec nos interlocuteurs. Et il faut quand même souligner que l'impact économique, en tout cas dans l'enseignement supérieur, de ces palmarès et de ces classements est très fort. Une école de commerce, d'ingénieur peut perdre pas mal d'élèves qui s'inscrivent, ou perdre en image, donc perdre en chiffre d'affaires, si son classement n'est pas bon. Donc il y a une très très forte pression aussi, à laquelle il faut savoir résister, et puis bien connaître sa façon de travailler pour pouvoir l'expliquer au mieux à nos interlocuteurs. Et c'est comme ça qu'on a pu asseoir notre expertise dans ce milieu, dans ce type de traitement éditorial.
Et nous avions même pu constater, c'était l'année dernière, que certaines écoles de commerce arrivaient à tirer leurs épingles du jeu dans certains classements en favorisant certains critères. Par exemple, publier de la recherche, on peut avoir un enseignement médiocre et publier beaucoup de recherches et être parfois
bien classés. Mais ça, c'est pas par l'étudiant, hein, Marie-Caroline Missire. Sur la multiplicité, en tant que statisticienne, hein, Fabienne Rosenwald, sur la multiplicité des critères à prendre en compte, c'est ça, faire un bon classement, une bonne évaluation?
Je pense que c'est une très très bonne initiative, hein, ce que l'étudiant a fait sur les écoles d'ingénieurs et de commerce, puisqu'en fait, il propose aux parents, aux jeunes, beaucoup de critères, et c'est à eux de décider ce qui est important. Alors, ça responsabilise obligatoirement les familles, ce dont elles n'ont pas tellement l'habitude, finalement, dans notre système scolaire, où les choix, on le voit bien, en troisième, en seconde, ou même après le bac, se font souvent par rapport à des niveaux scolaires, c'est-à-dire qu'on a des hiérarchisations dans la tête des familles. Et si on est très bon, on prend l'établissement ou la voie qui est la plus cotée, entre guillemets. Tandis que là, en fait, on oblige les jeunes à se poser des questions sur ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Je pense que c'est ça qui serait le plus important. Ça revient à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aller voir dans les établissements. Il y a d'autres critères que la réussite au bac, il y a la poursuite dans le supérieur, il y a le climat scolaire, il y a toutes les activités que pourront faire le jeune. Il faut arriver à se forger ce dont on a envie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'actions qui sont mises en place dans les collèges et dans les lycées pour aider à l'orientation, parce qu'il faut que les jeunes, les familles deviennent autonomes et réfléchissent vraiment à ce qu'elles ont envie en orientation.
Saïd Yacoub.
Alors, au-delà d'aider à l'orientation, c'est même aussi simplement, enfin, c'est pas simplement, c'est une affaire très complexe, hein, c'est de pousser à l'ambition scolaire. Parce que je voyais encore hier, je suis en train de mettre des avis sur les dossiers de la mission post-bac, c'est quand même dommage de voir des potentiels, hein, qui se brident. Alors, je sais pas si c'est un phénomène propre à la banlieue, enfin, j'espère pas et je pense pas, mais c'est quel dommage. Et on est là aussi pour ça.
Pousser des élèves à entreprendre des études ambitieuses.
Oui, tout à fait. Et donc, pour lesquelles ils sont tout à fait armés.
Fabienne Rosenwald.
Oui, en effet, c'est quelque chose qu'on voit clairement dans les études et les analyses, c'est-à-dire qu'à niveau équivalent scolaire, un enfant issu de milieux défavorisés aura des ambitions beaucoup moindres qu'un enfant issu de milieux très favorisés. Et donc, en effet, c'est une perte en termes de parcours et d'ambition sur laquelle il faut se pencher.
Ce que montrent aussi les études, c'est que ce sont les enseignants et parfois même les établissements qui les poussent moins. Mais ce n'est pas le cas à Jean Renoir. Nathalie Mons, en France, on évalue les lycées, pas vraiment les collèges. Est-ce qu'il serait intéressant d'évaluer davantage les performances des établissements? Ça pourrait commencer très tôt pour échanger les bonnes pratiques, pour leur permettre de progresser, par exemple, pour une école élémentaire.
Je crois qu'il ne faut pas tomber dans vraiment la recherche de palmarès à tout craint. Hein. Ça peut strictement avoir un effet anxiogène, donc contre-productif, sans nous permettre pour autant de voir vraiment la réalité du travail qui est réalisé dans les établissements. Donc il faut être extrêmement précautionneux. D'ailleurs, il faut savoir que tous les pays ne développent pas des palmarès. Il y a même des pays qui interdisent le classement des établissements. Je pense par exemple à la Belgique. On considère que c'est illégal.
Je pense délétère, aussi
que c'est délétère. Il n'y a pas de raison, que ça n'a pas d'intérêt. Je pense aussi à certaines collectivités territoriales en Finlande qui rendent anonymes toujours les noms des établissements dès lors qu'elles présentent des performances d'établissement.
Ça pourrait être un outil à usage.
Voilà. Donc c'est pas évident en fait. Hein. Pour nous, on vit avec ça, mais il y a quand même beaucoup de pays qui réfléchissent par rapport à ces palmarès et qui trouvent que finalement ça peut d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évaluation d'établissement. Je distingue bien les deux. Par exemple, en Angleterre, on a ces évaluations qui sont extrêmement riches et elles sont avec certains indicateurs, mais surtout, ça raconte ce qui se passe dans l'établissement et tout ça, par exemple, est publié sur des sites internet. Mais ça veut dire que si je suis parent, voilà, je peux charger tout un dossier sur l'établissement où j'ai aussi une idée de la politique de l'établissement. Je parle les projets citoyens de l'établissement, par exemple. Ça me donne une idée de non seulement ce qui se passe d'un point de vue strictement scolaire, mais également comment la citoyenneté, le vivre ensemble est porté dans l'établissement. Ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus large et ça, c'est intéressant.
Donc, être obligé de s'informer au-delà d'un simple classement. Il y a quand même quelque chose qui interpelle dans Ival, la valeur ajoutée, certes, mais si on regarde certains classements hein, produits par les organes de presse, je pense à celui du Monde, on voit que les établissements privés s'en sortent particulièrement bien. Or, on l'a dit, on ne peut pas forcément choisir son lycée, ou en tout cas le choix peut être contraint, ça c'est pour Paris, mais on peut toujours choisir d'aller dans un établissement privé. Est-ce qu'il n'y a pas là, de la part du ministère de l'Éducation, un discours un petit peu paradoxal, Fabienne Rosenwald?
Je vous rappelle que l'ADEP publie des indicateurs les plus objectifs et la meilleure qualité possible.
Et qui montrent que des établissements privés...
Il y a des établissements privés qui ont des valeurs ajoutées positives, il y en a qui ont des valeurs ajoutées négatives. Je vous rappelle que le privé est très différent en France en termes de public accueilli. Mais je vous rappelle aussi que, en moyenne, le public accueilli dans les établissements privés est beaucoup plus favorisé socialement et scolairement que dans le public.
Oui, mais on
et
parle de valeur ajoutée. Alors, il se peut aussi que les établissements privés aient une meilleure valeur ajoutée à élève égale.
On calcule ces valeurs ajoutées avec les informations dont on dispose. Et les informations dont on dispose, c'est l'origine sociale, le niveau scolaire, le sexe. Mais ce qu'on sait par nos études, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui sont très importants, qui influent énormément sur la réussite des jeunes. Par exemple, l'implication des parents, l'implication des familles. Et dans les études, quand on contrôle tous ces effets, la différence entre les résultats du public et du privé s'atténue énormément. Mais nous, on ne dispose pas de tous ces facteurs lorsqu'on fait les IVAL. On les fait avec la meilleure information possible, mais ce n'est pas toute l'information du monde.
Ça, c'était la petite information supplémentaire à avoir. Saïd Yacoub, privé, public.
Écoutez, je vais y aller de mon petit couplet quand même, parce qu'il y a des choses à dire. Bon, on le voit bien aussi aujourd'hui, un des premiers effets de la crise économique, c'est le retour de familles modestes vers le public. Hein, parce qu'ils n'ont plus forcément... Et je vous assure, on le voit vraiment au quotidien. Et puis, je dis très clairement, sans accuser qui que ce soit, mais on sait très bien aussi qu'on évacue des élèves, excusez-moi du terme, dont on estime qu'ils ne sont pas au niveau, qu'ils sont facteurs de risque pour justement ces vitrines de résultats dans le privé. C'est pas une découverte, malheureusement. Hein. J'insiste que nous, dans le privé, on garde tout le monde.
Dans le public.
Pardon, au privé. Dans le public, on garde tout le monde. Hein, et heureusement, d'ailleurs. Mais c'est une réalité. Hein, c'est une réalité.
On va passer au dernier sujet de l'émission et nous allons continuer, vous allez l'entendre, à parler d'évaluation avec Libby Cousteau. Évaluation et innovation pédagogique, évaluation bienveillante. Libby, vous avez fait un tour à la journée de l'innovation organisée le 30 mars par le ministère de l'Éducation à Paris.
Absolument, c'était la fête de l'innovation et c'était l'occasion de s'interroger sur le sens de l'innovation aujourd'hui à l'école, dans un système que l'on sait inégalitaire et qui peine à embarquer tout le monde dans le royaume du savoir. Alors, dans le programme très riche de cette journée, de nombreux débats, des ateliers qui tournaient beaucoup autour de la problématique de la réussite de tous les élèves. Parmi ces ateliers, il y avait celui-là, les 10 manières de dire c'est bien, qui m'a intéressée, dans lequel les intervenants ont passé un extrait d'une réunion parents-prof qui traduit cet esprit critique très négatif, trop négatif, qui sévit dans notre système.
Et ça avait été diffusé sur Arte.
Je voulais attendre que tu sois là, tu sais pourquoi ? C'est-à-dire qu'entre les moments où tu comprends pas, les moments où t'es timide mais t'as compris, les moments où tu crois que t'as pas compris mais en fait t'as compris, et les moments où ça t'intéresse pas, si tu veux, j'ai du mal à rentrer en contact avec toi en cours. Tu vois ce que je veux dire quand j'y rentre en contact ? J'ai du mal à savoir où tu en es, quoi. C'est-à-dire que t'as compris le cours globalement, mais t'as pas compris vraiment tous les enjeux du cours. Et ça m'embête plus. En fait, on a l'impression que t'es prêt à faire tout ce qu'il faut pour qu'on s'occupe de toi. Mais on s'occupe de toi. On sait que t'existes, on sait que t'es là, Lucas, je te l'ai déjà dit l'année dernière, il y a les mêmes soucis.
Par rapport à ce que vous me dites, est-ce que ce serait possible de parler, vous parler très très vite en classe ou pas?
Pas toujours, mais parfois.
D'accord,
aussi.
Non, mais je dis ça parce que...
Mais le problème, je vais vous dire, c'est
speed,
que...
Ah
oui,
speed,
oui.
Alors,
Oui, oui, le problème, non, c'est vrai. Le problème, c'est que eux sont très mous. J'ai l'impression que t'es pire que l'année dernière. J'ai l'impression que tu régresses. Et moi, ce que je vais lui dire, et ce que je vous dis, moi, pour l'instant, la seconde, non. Elle participe beaucoup. Par contre, elle lève la main pour poser une question, et après, elle me regarde plus, elle m'écoute plus quand je réponds.
Participer, c'est ce que je te demande. Hein? Si t'as pas compris quelque chose, le professeur est là.
Oui, mais ça, en plein cours, ils n'osent pas. Fin de l'heure.
À la fin de l'heure, il y a toujours une petite minute.
Mais je crois qu'il comprend, il comprend bien. Hein.
Oui, quand il veut, il peut vraiment faire de très bons résultats.
18 et demi, enfin, un 17 et demi.
2 sur 10, 7 sur 20, 6 sur 20. Il y a des problèmes en français, mais les dates et les définitions, c'est par cœur, quoi. Et là, ils travaillent pas assez. Une date, il n'y a pas à réfléchir. Pourquoi c'est tel jour plutôt que tel jour? Ne se tient pas correctement en cours, baille, s'affale contre le mur, range ses affaires avant le signal, intervention intempestive en cours d'espagnol, une attitude plus sérieuse. Pas de problème. Tout va bien.
Mais tous les ans, c'est la même chose. Il faut que je vienne 3 ou 4 fois voir le professeur principal pour que ça aille bien. Non, cette année, je baisse les bras.
Enfin, moi, je me fais aucune illusion. Hein, de
j'en
toute
sais
manière,
rien.
Il
n'a
jamais,
moi,
ça a jamais marché.
Moi, je le dis tout de suite, même si moi, j'ai pas de soucis.
Mais c'est tous les élèves ou c'est que le mien,
C'est ni l'un ni l'autre. C'est pas que le vôtre, c'est pas tous les élèves.
Oui, ça me rassure.
Elle pourrait fermer, elle se foule pas. Hein.
On a le sentiment d'une caricature. En tout cas, c'est assez dur. Quel est le sens de cette démonstration?
En passant cet extrait, c'est vrai, les animateurs du débat ont souhaité montrer de façon très prosaïque et quelque peu provocatrice, il est vrai que l'innovation, ça n'est pas toujours utiliser une tablette ou pratiquer la classe inversée, mais cela peut et doit être changer de méthode pour stimuler les élèves. Autrement dit, trouver et inventer autre chose que le terrible peut mieux faire, ou trop juste, ou décevant. Car figurez-vous, Louise, que ces remarques, ces paroles parfois vécues comme des humiliations peuvent détruire les neurones des enfants. Selon la pédiatre Catherine Guéguen, le stress empêche un développement harmonieux des fonctions affectives et cognitives. Et inversement, les encouragements produisent de l'ocytocine, appelée aussi la molécule du bonheur, qui crée des effets positifs. D'où l'importance pour les enseignants de développer leur créativité sur la façon d'exprimer le « c'est bien ».
Des exemples donnés par des enseignants?
Alors, ce sont des exemples très simples, comme par exemple cette prof de français qui s'oblige à la fin de chaque devoir de mettre un mini tableau récapitulatif indiquant les points positifs et les acquis en nombre strictement équivalent aux points à revoir. Ou encore à indiquer un pourcentage de réussite pour la dictée, ce qui valorise ipso facto ce qui est acquis plutôt que les fautes. Aucun élève n'est jamais en dessous de 50%, même les plus mauvais, indique Virginie Satik, cette prof de français. L'innovation, explique Grégory Quincampoix, co-animateur de cet atelier, c'est un pas de côté, un changement de posture et pas forcément utiliser un ordinateur ou une tablette encore une fois.
Changer de posture et travailler la bienveillance, c'est aussi le sens du projet Piste que vous avez découvert lors de cette journée.
Absolument. Alors, l'idée d'un groupe d'enseignants du collège Louis-Philippe dans l'académie de Rouen, c'est de proposer à chaque élève 3 pistes de travail systématiquement, donc verte, rouge et noire. Cela peut s'appliquer aussi bien des exercices ou des contrôles. En fonction de leur ressenti, donc sur leur propre capacité, les élèves choisissent le niveau de complexité auquel ils souhaitent s'attaquer. Alors, l'enjeu, c'est de mettre l'élève en confiance et pour l'enseignant de gérer l'hétérogénéité de la classe de façon dynamique. Pas question d'étiqueter l'élève, hein, car il peut à tout moment, y compris au cours de l'exercice, décider de passer d'une piste à l'autre. Alors d'un coup, l'évaluation devient quelque chose de positif, expliquent ses enseignants. C'est une façon de dédramatiser, de donner confiance, explique-t-elle. Une piste à suivre donc et à découvrir sur leur site dont vous aurez l'adresse sur le site de RDE.
Rue des Écoles, merci Libby. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis on va dire un petit mot avec vous, Nathalie Mons, d'un forum Rue des Écoles qui aura lieu à Bondy. J'espère que vous viendrez, monsieur le proviseur, Saïd Yacoub, à Bondy pour parler de mixité sociale.
Tout à fait, donc de mixité et de citoyenneté. On se rend compte aujourd'hui qu'en France, on a des phénomènes importants de ségrégation sociale, scolaire, à l'école. Et ces phénomènes de ségrégation ne sont pas sans lien aussi avec un certain niveau d'incivilité, de difficulté après des jeunes à pouvoir communiquer avec d'autres jeunes quelque peu différents, des phénomènes d'intolérance. Voilà. Donc on va aborder l'ensemble de ces questions à travers des expériences, des témoignages d'acteurs locaux. Et on fera part également des résultats d'un sondage. Que pensent les Français de la citoyenneté? Où est-ce qu'il faut la prendre? Dans la famille? Dans l'école? Est-ce que l'école fait bien son travail? Est-ce que c'est les bonnes méthodes pédagogiques? Et on fera part également de résultats de la recherche. Puisqu'on se rend compte en France qu'on est bien placé, on dédie beaucoup d'heures à l'apprentissage de la citoyenneté, mais il faut peut-être revisiter les méthodes pédagogiques parce qu'il faut qu'elles soient davantage actives.
Voilà, parce que les forums Rue des Écoles, c'est la confrontation de chercheurs, d'acteurs de terrain et du public. Donc je vous invite à venir nombreux, samedi 9 avril de 16h à 18h à l'auditorium Angèle et Roger Tribouillois. C'est 75 avenue Henri Barbus à Bondy. Et nous, dans l'émission sur France Culture, nous viendrons sur ce sujet le dimanche à 17h. Mais pour l'heure, Le Monde selon Antoine Garapon. Excellente soirée sur France Culture.